Christine Mattet.
Du ski alpin ce samedi 28 décembre avec la descente masculine de Bormio qui a débuté à 11h30. Un scénario inattendu, Jérôme Jourdain, sur la piste italienne.
Avec la première victoire en Coupe du Monde du jeune fribourgeois Alexis Monet, skieur de Châtel-Saint-Denis, il signe un authentique exploit parce qu'il n'a que 24 ans, parce qu'il s'était déchiré le ligament d'un genou en mars 2023 et parce que son meilleur résultat jusqu'ici était une 8e place à Kitzbühel la saison dernière. Alexis Monet a volé la vedette à un autre Suisse, le Bernois Fronio von Almen, qui était bien parti pour s'imposer et qui termine finalement deuxième à 24 centièmes. Derrière ce doublé, on trouve encore Marco Odermatt cinquième, malgré une grosse frayeur. Justin Morizier sixième, Marco Koller, surprenant Marco Koller, neuvième. C'est donc une très belle journée pour le ski suisse avec 5 Suisses dans les 10 premiers.
Magnifique, merci Jérôme. On vous retrouve à 14h pour la suite de cette journée de ski avec les dames qui disputent, elles, un géant à Semmering en Autriche. Début en ce moment même de la deuxième manche. La Ragout Berami est bien placée pour jouer la victoire. Après la première manche, la Tessinoise peut viser un 46e succès en Coupe du Monde. Elle a signé le deuxième temps à 15 centièmes de la première, l'Italienne Federica Brignone. Une course à suivre en images sur RTS2. L'opération pour décomprimer l'hématome intracrânien dont souffre le skieur français Cyprien Sarrazin après sa lourde chute d'hier à l'entraînement à Bormio en Italie s'est bien passé. C'est ce que vient d'annoncer la Fédération française de ski. État d'urgence décrété en Crimée après la marée noire en Russie. Les autorités russes ont fait état d'une situation critique à cause de cette marée noire provoquée par le naufrage à mi-décembre de deux pétroliers entre la Russie et la Crimée annexée. Le déversement de milliers de tonnes de mazout a notamment touché les plages du sud-ouest de la Russie. Le 15 décembre, deux pétroliers russes se sont échoués au cours d'une tempête dans le détroit de Kerch. Un hôpital clé de Gaza est désormais fermé et son directeur est détenu, selon des responsables locaux. Les autorités sanitaires de la bande de Gaza s'inquiètent de la situation critique dans le nord du territoire palestinien. L'hôpital est déclaré hors service par l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la santé du gouvernement du Hamas à Gaza a affirmé que les troupes israéliennes avaient conduit à un centre de détention des dizaines de membres du personnel. Drôle de fin de partie pour le meilleur joueur d'échecs au classement mondial, le Norvégien Magnus Carlsen. Il quitte les championnats du monde de partie rapide après avoir été sanctionné hier. Sa faute, il portait un jeans pendant la compétition à New York, ce qui est interdit par le règlement de la Fédération internationale des échecs. « Je suis trop vieux désormais pour me prendre la tête », a déclaré le grand maître de 34 ans qui a préféré partir plutôt que de changer de tenue. La météo, les journées se suivent et se ressemblent du stratus en dessous de 800 mètres et du soleil en dessus, entre moins 1 et 4 degrés aujourd'hui.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lausanne-Martigny, on signale toujours un bouchon entre Chèbre et Montreux en direction de Martigny en raison d'un accident. Un retard de 30 minutes est à prévoir sur ce tronçon. Et puis une information concernant le ferroutage, on annonce 2 heures d'attente à la gare de chargement de Réalpe sur la ligne de la Fourca.
Merci. Merci de vous être mobilisé avec nous contre les violences faites aux enfants. Merci d'avoir contribué à leur offrir une enfance heureuse en Suisse et dans le monde. Ensemble, avec la RTS et la chaîne du bonheur, nous pouvons faire face à la maltraitance infantile. Parce que donner est un jeu d'enfant. Les dons sont encore possibles jusqu'à la fin de l'année sur coeur-rts.ch.
Avec Raiffeisen et la Fondation Groupe Mutuel.
Écosystème. Une émission de Florence Farion.
C'est la dernière émission de l'année. Durant 2 semaines, nous allons vous proposer des rediffusions. Je ne savais pas très bien comment terminer cette année 2024, mais j'ai pensé à cette heure que nous avions consacrée à la retraite. Oui, car la retraite, c'est la fin de quelque chose, comme la fin d'une année. Nous y parlons du temps qui passe et des questions sur le sens de la vie. Et tout cela sera au cœur de l'échange avec nos 2 invités. C'est un ouvrage collectif paru cet automne qui nous éclaire sur les enjeux personnels de ce moment qui, pour certains, prend parfois l'allure d'une crise existentielle, rien de moins que ça. Allez, on va fouiller dans les coulisses intimes de notre AVS de cette fin d'année, en tout cas de cette fin de quelque chose. Bonjour et soyez les bienvenus. La retraite, c'est du multicouche. Il est question d'identité, de représentation, de rôle, de relation. Car à ce moment de l'existence, on rebat souvent les cartes de sa vie. C'est un peu l'heure du bilan, des questions abyssales, du temps qu'il nous reste et de ce que l'on peut encore accomplir. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne un peu le tournis. Pour en parler, nous n'avons pas trop de deux invités. Pour parler de ce sujet, ils ont compulsé, voire mené des travaux sur ce vaste domaine. Bonjour Jean-Luc Bernaud.
Bonjour.
Bonjour Christian Hellon.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous êtes, alors je vais vous présenter, Jean-Luc Bernaud, on vous a déjà entendu dans Égosystème. Comme spécialiste de la psychologie existentielle, vous avez publié un traité de la psychologie existentielle, raison pour laquelle on vous a déjà entendu autour de ce micro. Vous êtes professeur de psychologie. Et puis Christian Hellon, on ne se connaît pas encore. Vous êtes psychologue d'abord et directeur de l'école des psychologues praticiens, c'est bien ça. Et vous êtes aussi chercheur, Christian Hellon.
C'est bien ça, et professeur en psychologie, spécialiste des âges de la vie adulte.
Ça tombe bien, ça va être notre sujet du jour. Alors vous avez co-dirigé avec Evan Laurer un ouvrage paru chez Duno qui s'intitule « Psychologie de la retraite ». C'est un ouvrage collectif extrêmement riche, centré, je le disais, sur les aspects plutôt psy de la retraite. Est-ce qu'on dit en préambule peut-être que c'est un ouvrage qui est plus destiné aux professionnels qu'au grand public ?
Oui, de toute évidence. Enfin, c'est un ouvrage qui est académique, donc qui cherche à faire le point sur les théories, les modèles, les méthodes, les différentes approches, qui fait la synthèse des recherches importantes qui ont été menées sur ce sujet ces 10-15 dernières années, et qui ouvre aussi vers des perspectives professionnelles qui touchent d'abord prioritairement les professionnels que sont les psychologues, les spécialistes de l'accompagnement. Mais après, au-delà de ça, un ouvrage, c'est toujours un trésor pour qui s'intéresse à une question. Mmh. Et il est aussi présenté dans un langage relativement intelligible et peut être intéressant pour éclairer des personnes qui s'intéressent à la question, pour éclairer des politiques publiques, pour inviter tout un chacun à s'emparer de cette tranche de vie qui est extrêmement signifiante, la retraite, et pour essayer d'en comprendre quelques contours.
Sixième âge de la vie. C'est comme ça que vous le surnommez aussi, c'est ça ?
Oui, alors dans mes travaux sur les âges de la vie adulte, j'ai tendance à imaginer, à représenter le panorama de l'existence des individus occidentaux autour de 7 âges en tout. Alors le bébé, l'enfant, l'adolescent, et puis après 3 grands âges de la vie adulte, l'entrée dans la vie adulte, le milieu de vie adulte, et 6e âge donc, le passage ou la transition vers la retraite. En attendant le 7e qui est le grand âge avec son lot souvent et malheureusement de dépendance.
Avec justement ces curseurs qui bougent au niveau des âges, c'est-à-dire qu'on était, vous le dites, hein, il y a une centaine d'années, Christian Hellon, on était vieux à 60 ans et 100 ans plus tard, on est vieux à quoi, 85-90 ans, c'est à peu près ça.
Effectivement, on compare très souvent les âges de la vie à partir d'un âge chronologique en disant il y a de plus en plus de personnes de plus de 60 ans ou de plus de 65 ans, ce qui est vrai et indiscutable. Cependant, pour être exact, il faudrait comparer les 60 ou 65 ans d'aujourd'hui avec les 40 ans d'hier, ou plus exactement à l'inverse, les 60-65 ans d'hier avec les 85-90 ans d'aujourd'hui, en termes d'espérance de vie, d'état de santé, d'autonomie, etc. Donc il y a un effet un peu de biais quand on parle du vieillissement de la population, parce qu'on fait comme si forcément et inéluctablement il y aurait de plus en plus de personnes âgées à partir de 60-65 ans. Or, aujourd'hui, à 65 ans, les gens sont beaucoup plus en forme et beaucoup moins vieux qu'il ne l'était il y a un demi-siècle et encore plus, voici un siècle.
Si on reste dans les chiffres, peut-être encore ce constat que j'ai trouvé dans votre ouvrage, il y a évidemment l'espérance de vie, il y a ce chiffre qui augmente, mais il y a aussi l'espérance de vie, je le dirais, en bonne santé, sans incapacité forte. Et c'est vrai que quand on arrive à l'âge de la retraite, il faut peut-être avoir un peu ce chiffre en tête, 75 ans pour les hommes, 78 ans pour les femmes, où on va le dire bêtement et simplement, où on va être en forme.
C'est ça, oui.
Avec ce chiffre étonnant, puisqu'on est dans les chiffres, et puis après on rentrera évidemment dans le cœur du sujet, mais ce chiffre qui dit que dans le monde, une personne sur 10 va connaître la retraite. Ici, ça paraît une sorte d'évidence, mais une personne sur 10. Alors, on pense à quoi? La mortalité précoce? On pense à des pays qui n'offrent pas ce système de retraite? Enfin, on pense à quoi quand on dit ce chiffre de une personne sur 10 seulement?
Bah, effectivement, c'est les recherches que j'ai menées qui ont conduit à cette estimation qu'il faudrait sans doute regarder d'un peu plus près. Mais en tout cas, c'est une chance et c'est très exceptionnel que d'avoir la possibilité de vivre une retraite sur 15, 20, 25 ans, en bonne santé, avec des moyens financiers qui peut-être sont moindres que lorsque l'on travaille, mais sont tout de même suffisants pour assurer un niveau de vie correct et un confort de vie acceptable. Et donc c'est une chance incroyable qu'ont les Occidentaux et qui ne sont finalement que 10% de l'humanité à pouvoir connaître cette retraite, c'est-à-dire en bonne santé, avec un système de revenus. Et dans la plupart des pays du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Polynésie, etc., eh bien, les gens ne prennent pas de retraite parce qu'ils doivent toujours subvenir à leurs besoins, travailler d'une manière ou d'une autre, et n'ont tout simplement pas de pension de retraite, ni, comme le disait mon collègue Jean-Luc Bernaud, ni de système de santé qui les protège des risques de mortalité auxquels nous survivons en Occident d'une manière absolument incroyable et inédite depuis, là encore, un demi-siècle.
Alors si je vous entends, c'est une chance qu'on a peine parfois à mesurer. C'est-à-dire que ce mot de retraite, on est entre, oui, le sentiment d'avoir de la chance, mais aussi beaucoup de peur qui peut en atteindre certains à l'arrivée de cet âge-là.
Il a une signification, une connotation très particulière. La retraite, depuis notre plus jeune âge, on se forme une représentation de la retraite à travers les cohortes qui sont décrites dans les médias, l'image du retraité qui peut être associée dans les représentations à la maladie et à la mort, à l'inutilité. Enfin, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais il y a toutes les représentations sociales associées à la retraite jouent un rôle considérable dans la vision que tout un chacun peut avoir de cette période. Et donc, voilà, c'est la question, c'est comment on peut prévenir les problèmes qui sont inhérents à ces représentations, les conséquences de ces représentations. Et puis aussi, peut-être une question, je lance un peu comme un pavé dans la mare, c'est est-ce que le mot retraite est bien choisi? On s'est aussi beaucoup posé la question, est-ce qu'il faudrait réinventer le mot, peut-être lui donner d'autres colorations, peut-être l'actualiser aussi, parce que la retraite... comprise comme un moment de prise de distance, de retrait du monde, c'est quand même plus tout à fait cela en 2024. Il y a quand même, les retraités sont quand même très engagés, que ce soit sur le plan associatif, que sur le plan professionnel aussi beaucoup, sur le plan de la vie familiale, avec des formes d'action qui sont très diversifiées. Donc je ne sais pas s'il est bien convenable de continuer à parler encore de retraite.
Oui, c'est ça. Puis je pensais à ce mot de retraite militaire qui est quand même un truc... Enfin, on a quand même perdu hein, si on se retire. Enfin, il y a quelque chose comme ça de ce mot, mais c'est vrai que c'est difficile d'en inventer un autre parce qu'en vous lisant, j'ai pensé exactement la même chose. Je me disais, comment on pourrait rebaptiser ça? Ben, personnellement, j'ai séché, vous aussi apparemment, vous les deux.
Notre collègue Pierre-Henri Tavoyot parle de répit. Ça va avec l'idée que peut-être on pourrait repenser l'ensemble des âges de la vie. Pour l'instant, on est toujours sur le modèle. D'abord, on a France et l'école, la formation initiale, l'université, etc. Ensuite, on travaille et enfin, on se repose. Or, nos existences plus longues nécessiteraient sans doute de faire une formation initiale plus courte au départ, sans doute, pour mieux forger ses choix, faire des années de césure, multiplier les expériences. Et puis, tout au long de la vie, alterner des périodes de formation continue, tout au long de la carrière, etc. Des périodes de travail, d'activité rémunérée, et des périodes de répit, qui ne sont pas des périodes où on est en retrait, où on a battu en retraite, comme le voudrait l'étymologie militaire, mais où on fait des choses choisies, dans un rapport au temps différent, avec un rapport aux contraintes qui n'est pas le même, etc., etc. Et alors, on pourrait imaginer que tout au long de la vie, on alterne répit, formation, travail, pendant plus longtemps, et voici résolu le problème de l'âge de la retraite sur lequel butent nos politiciens depuis de nombreuses décennies.
Est-ce qu'on a une idée de combien le vivent bien et combien le vivent mal? C'est-à-dire combien cette perspective fait sourire et combien elle fait plutôt peur?
Alors oui, on a quelques données d'enquête qui nous donnent des informations, alors qui varient aussi selon les périodes de questionnement. C'est-à-dire, il y a plus d'inquiétudes, souvent, généralement, plus de visions négatives avant l'entrée en retraite qu'après. Généralement, on tourne autour de 5 à 10% de la population qui vit mal sa retraite. Et c'est surtout aussi peut-être un public qui évolue à bas bruit, sans forcément faire connaître son ressentiment ou ses émotions négatives. Et donc je crois qu'on a vraiment le devoir de se préoccuper de ces personnes qui sont engagées dans la retraite, mais qui finalement sont parfois en difficulté, voire en situation de désespoir.
Ce que vous soulignez beaucoup dans votre ouvrage, et c'est un peu le but, et évidemment on y viendra, hein, c'est cette fameuse préparation à la retraite. C'est une forme d'indispensable. Y réfléchir combien de temps avant ?
C'est vraiment une question qui appartient à chacun. Donc en fait, il n'y a pas un modèle unique, je ne le crois pas, qui permettrait de dire, voilà, on va planifier ça de telle façon, il faut y consacrer tout. D'heures, il faut aborder telle question. Non, il y a des personnes pour lesquelles il y a une certaine forme d'évidence. Et puis il y a des personnes qui vivent vraiment, c'est ce que démontrent certaines de nos recherches, hein, notamment dans les enquêtes qualitatives, c'est très frappant, qui vivent très mal la transition ou qui sont très désemparées avant, qui sont perturbées par la perte des repères.
À l'idée même que, ça arrive.
Oui, et donc là, effectivement, ça peut nécessiter, on ne décide pas de préparer sa retraite 3 mois avant, parce que les décisions qu'on va prendre, qui touchent toutes les sphères de la vie, hein, ça peut être le logement, ça peut être les aspects économiques, ça peut être les questions relationnelles, l'investissement dans de nouvelles activités, le mode de vie, et puis l'affrontement de questions plus fondamentales, on en parlera peut-être après, qui peuvent être très déstabilisantes à cet âge de la vie, parce qu'il y a le vieillissement, il y a la mort, il y a la maladie, il y a tout un ensemble d'enjeux peut-être nouveaux pour beaucoup, qui font que ça peut nécessiter une certaine préparation. Mais voilà, pour les personnes qui en ressentent le besoin, moi je dirais que c'est de l'ordre de peut-être 2 à 3 ans, quelque chose de cet ordre-là, mais à chacun vraiment de le déterminer.
On va parler de tout ça avec vous deux, Jean-Luc Bernot et Christian Hellon. Vous êtes les co-auteurs avec d'autres, évidemment, parce que je le disais, c'est un ouvrage collectif, Psychologie de la retraite aux éditions Dunod. C'est un livre à empoigner, c'est un sujet à réfléchir en temps et heure, comme vous le dites. On va pouvoir parler d'identité, on va pouvoir parler effectivement des représentations, d'un défi existentiel, d'une forme de liberté peut-être retrouvée ou pas. On a jusqu'à 14h pour en parler et on va y revenir après avoir écouté ce bon vieil Henri Salvador qui n'a pas pris sa retraite, qui a chanté jusqu'au bout et a même connu une deuxième naissance avec une unixième naissance, on va dire, artistique, grâce à Benjamin Biolay et Karen Anne. C'était dans les années 2000 avec son jardin d'hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
Écosystème, une émission de Florence Farion.
C'est la deuxième partie d'Écosystème. Aujourd'hui, nous parlons de retraite. On le disait, c'est pas forcément la retraite défaite. Ça peut être une retraite qui fait sourire. Ça peut être une retraite à laquelle on réfléchit, à laquelle on se prépare. Une forme de défi existentiel. Vous commenciez à l'aborder, Jean-Luc Bernou. Vous êtes un de nos deux invités, professeur de psychologie et spécialiste de la psychologie existentielle. À vos côtés, Christian Hellon. Vous êtes plutôt un spécialiste, Christian Hellon, psychologue, spécialiste de l'âge. Vous êtes chercheur et vous pensez ces âges de la vie. Ce sixième âge, comme on le disait, cet âge de la retraite, pose la question essentielle et fondamentale de l'identité. Qui suis-je quand je ne travaille plus? C'est un peu une question qui forcément nous rattrape.
Oui, forcément, puisque l'identité se noue de différents contextes, de différentes rencontres, de différentes expériences sociales. Et le travail, dans nos sociétés occidentalisées au XXIe siècle, joue un rôle quand même assez considérable. Mmh. Déjà, il occupe l'espace-temps, si je puis dire, de façon assez colossale, à l'échelle d'une vie. Et puis ensuite, c'est quand même une des façons de se définir. On apprend à se définir par le travail. Quand on
souvent,
fait son CV,
ça fait partie des deux ou trois questions qu'on pose quand on rencontre quelqu'un. Et vous faites quoi dans la vie? Ça va très vite, ça.
Quand vous allez prendre un verre entre amis, c'est souvent une des questions qui va fuser et puis qui va aussi servir à se situer dans l'espace public, dans les échelles financières, dans les niveaux de prestige perçus. Donc tout cela joue un rôle quand même très important en termes de positionnement social, de définition de soi et puis d'acquisition de compétences qui peuvent avoir aussi des conséquences dans la vie personnelle, puisqu'on met aussi, il y a une porosité entre la vie au travail et la vie hors travail qui fait que cette dimension est fondamentale. Alors, arrivé à la retraite, pour un certain nombre d'individus, tout ça disparaît, et souvent brutalement. Oui. C'est ça qui est frappant et qui revient aussi parfois dans les discours, c'est que ça s'arrête, et on le sait, mais on ne l'a pas vécu émotionnellement, le moment où tout s'arrête.
Tout dépend aussi du lien de la relation entretenue, de l'identification, du degré d'identification à son travail. Il y a des personnes pour qui arrêter le travail est véritablement un soulagement. Tout dépend du niveau de revenu, du niveau de qualification, du degré de prestige, etc., de l'investissement dans le travail, et notamment les travaux à forte pénibilité physique tout de même. Et ce qui pose la question avec l'allongement de l'âge légal du départ à la retraite, de la viabilité, de l'état de santé des gens après 62, 64 ans ou plus, tout dépend quand même du travail que l'on fait. Et vous évoquiez Henri Salvador qui n'a jamais pris sa retraite. Dès lors qu'on a un travail de créativité, dès lors qu'on est dans l'œuvre plus que dans le travail au sens du labeur, alors effectivement, on prend peut-être pas tout à fait totalement sa retraite. Surtout si les dits retraités ont été très identifiés à leur tâche.
Exactement. Oui, et en complément, je crois qu'il faut bien comprendre que le fait d'être en activité professionnelle et d'avoir un travail, un emploi, pour être plus précis, c'est évidemment exercer quelque chose, avoir des missions, avoir un emploi du temps, mais c'est aussi, en termes de construction de l'identité, appartenir souvent à une communauté sociale et professionnelle. Mmh. Et ça joue quand même un grand rôle, parce que quand on arrive à la retraite, on perd quand même un peu le fil de cette communauté. Alors, d'ailleurs, certains et certaines ont des stratégies pour essayer de renouer ce fil en continuant de contribuer à des associations proches. Ou vous avez des personnes aussi, moi j'ai été très touché par des témoignages aussi d'anciens ouvriers qui reviennent manger à la cantine souvent pour justement continuer à entretenir la flamme de ce sentiment d'appartenance. Ne pas perdre complètement cela, c'est quand même souvent un enjeu pour les personnes qui peuvent être touchées ensuite par un sentiment de solitude abyssale. Effectivement, vous entrez dans une nouvelle catégorie, dans un nouvel espace où il y a, et là, avec, on en parlera peut-être après, avec aussi une liberté de construire oui. votre retraite, mais avec évidemment un regard de la société aussi, avec des messages, des injonctions aussi qui sont adressées par l'environnement. On n'est pas simplement retraité en soi, on est retraité à travers le regard que les autres portent sur nous. Et ça, ça joue aussi un grand rôle sur comment on se définit au moment de la retraite, bien évidemment.
Oui, avec les blagounettes, de toute façon, t'as tout le temps du monde, t'es à la retraite. Et puis les retraités s'empressent toujours de vous dire « Mais depuis que je suis à la retraite, j'ai plus un moment pour moi. » Vous avez remarqué ça aussi, hein ? Besoin de remplir,
ouais,
de remplir.
Il y a des conduites contraphobiques comme ça. Peut-être ouais. on remplit le temps, on remplit le vide, dirait Jean-Luc, je pense. Et les relations sociales que donne le travail, la communauté à laquelle on appartient, etc., peuvent être compensées ou pas par la qualité des relations familiales, conjugales, amicales, et des réseaux maintenus ou perdus lorsque l'on arrive à l'âge de la retraite. Et je voulais aussi ajouter un élément concernant les 5 à 10% de personnes qui ne vivent pas si bien que cela le passage, la transition vers la retraite, qu'ils vivent comme une crise majeure. Il faudrait distinguer entre ceux pour qui le moment même du passage est source de crise, le moment où l'on prend sa retraite, et puis quand même, il faudrait regarder 2-3 ans après, c'est-à-dire au moment où tout ce
où la lune de miel se termine.
Ouais, c'est ça,
ce
voilà,
que vous appelez la lune de
ça
miel.
Comme ça, c'est...
Ouais.
Voilà.
Au début, c'est tout beau, tout beau, et puis tout d'un coup,
oui,
c'est...
Parce que c'est,
c'est des grandes vacances.
C'est des grandes vacances, on a enfin le temps de faire tout ce qu'on avait prévu, etc. Puis au bout d'un moment, tout est fait, et alors, qui suis-je hein? Et donc là, on est en plein dans les questions existentielles qui passionnent Jean-Luc Bernaud, sur lesquelles il travaille assidûment.
On va y revenir, évidemment, mais je voudrais juste, avant qu'on écoute un peu de musique, qu'on dise deux mots, puisqu'on est dans le relationnel, sur le couple. Tout d'un coup, il est là tout le temps, tout d'un coup, elle est là tout le temps. Du coup, je pars faire des courses pour m'aérer un peu. Enfin, c'est cette promiscuité du quotidien que finalement on a peu vécu dans une vie de couple. Mmh. Ça peut être une manière de raviver le couple aussi, de se retrouver, d'avoir enfin le temps de faire des choses ensemble. Mais moi, j'entends plus souvent le truc de oh, on a tout ce temps ensemble et puis finalement, est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on a vraiment envie des mêmes choses?
Ouais, alors tout dépend si c'est le même couple ou pas, parce que de plus en plus de personnes changent de partenaire, de conjugal, à différents âges de la vie, mais pas mal entre 50 et 60 ans, donc tout dépend de la longévité antérieure du couple et de soit de l'usure des sentiments, soit de leur renouvellement, soit alternativement l'un et l'autre. Il y a aussi la question de la sexualité, qui est un tabou... qui se relativise, mais enfin, c'est quand même pas si facile que ça d'aborder la question de la relation sexuelle, du désir, de l'érotisme, etc., à 60 ans. Enfin, ça l'est peut-être jamais, mais notamment après 60 ou 65 ans. Il y a la question du partage du temps et de l'espace. Alors, ça renvoie aussi au niveau de vie, aux moyens financiers, à des choses matérielles tout à fait basiques, mais qui vont rendre plus ou moins facile ou agréable la vie conjugale. Ça renvoie aussi à la métamorphose qu'il y a à devenir grand-parent. On a un très bon chapitre sur les grands-parents. Et enfin, sans doute faut-il œuvrer, j'allais dire travailler, à cette question de la relation conjugale comme espace d'accomplissement de soi, c'est-à-dire de chacun des deux partenaires du couple, qui nécessiterait sans doute un accompagnement également, puisqu'on parlait de préparation à la retraite. Alors il y a les aspects financiers, juridiques, organisationnels, santé, médicaux, tout ça c'est... Mais la question de repenser le couple, de réaménager sa relation conjugale, c'est sans doute une question très intime, propre à chaque couple qui trouvera ou non sa manière de faire, mais c'est une question assez centrale.
Mais qu'on n'anticipe peut-être pas forcément assez. Enfin, se questionner, ouais, ça vaut le coup de se mettre sur l'oreiller ou autour de la table pour
ouais,
en parler.
Qu'on questionne... Bah parce que c'est intime, c'est complexe, c'est subtil. Il y a aussi un élément, c'est qu'on entre quand même avec la retraite, on arrive à une question centrale pour le couple, ce que j'appelle le quatrième âge de la vie du couple, c'est que l'un des deux va fermer les yeux de l'autre. Ce qui n'est pas l'horizon habituel auquel on se confronte ou on se projette quand on parle de vie conjugale. Mais Jean-Luc, tu voulais compléter.
En complément, moi je trouve que, bon, même si l'analogie est un petit peu facile, ce que j'ai pu observer dans des accompagnements ou dans des enquêtes, c'est le fait qu'il y a une certaine analogie avec ce qui se passe dans le rapport au travail. Le rapport au travail et le rapport au couple est intéressant de ce point de vue-là parce que finalement, beaucoup de personnes vivent leur existence sans se poser de questions fondamentales ou en évitant, en étant plutôt dans ce qu'on appelle un peu une forme de dévalement en philosophie existentialiste, hein, c'est-à-dire le fait d'être dans l'action. C'est un peu le syndrome métro-boulot-dodo. J'avance, je règle ce qu'il y a à régler, je travaille, je paye mes factures, je m'occupe des enfants, je pars en vacances. Et puis finalement, le temps de se poser des questions vraiment fondamentales avec authenticité, c'est quand même pas si évident que ça. Moi, je suis frappé, par exemple, de voir que les personnes qui arrivent à la cinquantaine, par exemple, parfois avouent ne jamais avoir véritablement réfléchi à leur rapport au travail. C'est quand même très frappant dans nos sociétés. Et j'ai l'impression que pour le couple, c'est parfois un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui s'installent avec le temps, des routines, des modes de fonctionnement, un équilibre qui est parfois toujours un peu fragile, dont on sait qu'il peut ne pas durer. Et donc c'est un peu, le couple, c'est un, enfin moi j'ai un peu l'image parfois de, qui m'est renvoyée d'un peu un Mikado, c'est-à-dire que si on enlève un
bâtonnet,
un morceau,
tout
peut s'effondrer. Donc effectivement, évitons les discussions un peu douloureuses. Et donc le problème, c'est que là, on peut plus se défausser. Il faut effectivement redéfinir, redélimiter l'espace de chacun, les priorités, renégocier peut-être. La négociation, c'est aussi importante. Être empathique vis-à-vis de l'autre. Enfin, voilà, toutes ces dimensions-là qui sont un petit peu oubliées par la frénésie quotidienne, on est de nouveau confronté. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose finalement.
Et sans compter que parfois l'un le vit bien, l'autre ne le vit pas bien. Ça, c'est encore un autre chapitre qu'on pourrait ouvrir. Mais stop. On va écouter Frank Sinatra. Allez, on y va avec sa voix d'or. Young at Heart, c'est le deuxième choix musical de cette émission. Et Sébastien Arnold qui a tricoté les musiques. Non, sans rappeler que Jean-Luc Bernot et Christian Ellon sont nos invités jusqu'à 14h. Nous parlons psychologie de la retraite. C'est un essai paru aux éditions Dunod. Et on se dit à tout de suite.
Fairy tales can come true. It can happen to you. If you're young at heart, for it's hard, you will find, to be narrow of mind, if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart.
Quelques informations routières avant la suite d'Ecosystème.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lausanne-Martigny, les automobilistes perdent toujours une dizaine de minutes entre Chèvre et Montreux en direction de Martigny en raison d'un accident. Conséquence, sur l'autoroute A12 Fribourg-Vevey, on constate une colonne qui s'est mise en place à l'approche de l'échangeur de la Vère sur la piste menant en Valais.
Chaque samedi, entre 13h et 14h, Ecosystème sur RTS La Première.
C'est la troisième partie d'Ecosystème. Nous recevons aujourd'hui deux psychologues avec multiples casquettes, chercheurs aussi, qui sont intéressés par la question de l'âge, la question de la psychologie existentielle aussi, Jean-Luc Bernot. C'est ce qui vous meut. On vous avait déjà reçu autour de ce sujet, de cette psychologie existentielle. On a commencé à aborder un peu cette question du sens. Cette psychologie existentielle, elle a pour objectif, en fait, j'ai repris vos mots, hein, de comprendre les représentations, les émotions, les attitudes et les comportements que les personnes développent face à l'existence et aux perspectives et aux choix de vie.
Oui, alors, comme toute définition, elle a les qualités de ses défauts et donc forcément les défauts de ses qualités. Donc oui, ça donne une vision d'une discipline qui se veut scientifique, à l'articulation entre la psychologie et la philosophie et bien d'autres disciplines pour essayer de comprendre, oui, ce qui nous meut finalement, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait exister dans un environnement, des systèmes qui peuvent parfois paraître absurdes et auxquels il convient de donner du sens pour continuer à entretenir une certaine flamme dans l'existence.
Le sens et la liberté, ça c'est vraiment un thème que vous abordez évidemment dans votre ouvrage. Il y a à la fois ce sentiment avide de profiter de la liberté, mais en même temps, c'est l'angoisse des choix aussi derrière cette liberté. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on va plus pouvoir changer de braquet quand même 15 fois dans sa vie, puisque le temps est un peu compté, et que les décisions qu'on va prendre, elles vont avoir un poids peut-être encore plus grand que quand on a 30 ans, 40 ans, etc. Vous êtes d'accord, Jean-Luc Bernot ?
Oui, bah évidemment, enfin, c'est cette question de la liberté, elle n'est pas souvent posée dans le quotidien. Enfin, c'est un sujet qui est un peu mis de côté, parce que c'est très complexe, et comme vous l'avez dit très justement, ça génère des réactions très paradoxales, parce que la liberté est évidemment vectrice de joie, de possibilités, de réalisation de soi. Donc il y a toute une valence positive de la liberté qui est activée quand on pense au statut de retraité, être payé pour avoir du temps devant soi, et l'occuper, faire des choix, se faire plaisir, organiser sa vie comme on le veut. Alors c'est une grande chance. Et en même temps, on le sait depuis Kierkegaard, la liberté, c'est très déstabilisant. Mmh. Tout le monde veut s'en emparer, mais une fois qu'on y est confronté,
quelle responsabilité,
c'est de la fuir en fait. Ça pose le problème de la responsabilité, de comment chacun va assumer ses choix. Alors dans le cas en plus de la période de la retraite, il y a des limites aussi à la liberté, hein, parce que tout le monde n'est pas financièrement,
évidemment.
Même certains peuvent être plus isolés aussi socialement. Hein. Il y a des personnes qui vivent dans des situation vraiment, il y a peu d'opportunités en fait pour réaliser ce qu'ils auraient envie de réaliser. Donc toutes ces contraintes peuvent peser.
Plus les loyautés familiales, pardon Jean-Luc Bernot, plus les loyautés familiales avec, et vous le dites bien, hein, ces cinq générations qui aujourd'hui vont cohabiter, c'est-à-dire qu'on est pris entre ce duo, enfin les parents qui sont parfois encore là, mais qui demandent un peu de soins, d'accompagnement, les enfants, les petits-enfants, enfin, il y a aussi toutes ces formes-là de loyauté qui peuvent aussi être des entraves à la liberté. Hein.
En fait, on vit dans un écosystème qui va forcément façonner notre rapport à la liberté. C'est évidemment extrêmement stimulant et passionnant, mais ça peut être très déstabilisant.
Comment apprend-on d'ailleurs à se saisir de sa liberté ? Je vous laisse 2 heures. Hein.
Oui, alors là, c'est un sujet, c'est le sujet de philosophie de l'année. C'est une question qui est très, très complexe et qui, encore une fois, je voudrais pas donner le sentiment qu'on a des sortes
des recettes
de
comme
recettes
ça. Mais cette question, vous la posez
formules.
Dans votre ouvrage. Elle se pose très
oui,
fort.
Oui, elle se pose. Je crois que vraiment, là, je pense que la question de la liberté, elle peut être éprouvée à travers le dialogue, pour moi. Ou différentes formes de dialogue. Donc, c'est, pas nécessairement avec un psychologue professionnel, même si parfois il est parfaitement qualifié pour mettre en dialogue cette question de la liberté, mais ça peut être aussi un dialogue nourri avec l'environnement social, familial, amical, comme le signalait Christian tout à l'heure, qui joue un rôle assez considérable pour effectivement jauger un petit peu comment chacun, chacune déjà s'empare de cette situation de la retraite. Ça peut être déjà intéressant, pose des jalons, quelles expériences peuvent être concluantes ou au contraire entraîner des désagréments. Nous, les êtres humains, on a cette caractéristique aussi d'apprendre beaucoup par les regards croisés, par les échanges, parfois par les lectures aussi, qui nous donnent des modèles à penser, non pas des modèles à imiter, mais à penser, qui vont nous permettre de prendre conscience, effectivement, des formes de contraintes, des injonctions, et de comment on peut véritablement arriver à être authentique. Hein. Enfin, pour moi, c'est ça l'enjeu, comment on peut être authentique dans cette période de vie, c'est-à-dire arriver à s'y retrouver un petit peu soi-même, sans négliger pour autant les autres, prendre les contraintes comme elles sont, et puis quand même arriver à assumer aussi tous les choix que l'on va réaliser. C'est un travail de sculpture sur soi, de sculpture de soi, hein, pour reprendre un petit peu les termes, oui, ou de Pierre Hadot aussi. Une tâche à part entière intéressante quand on a un petit peu de temps et qu'on veut profiter d'une retraite épanouie.
Vous voulez ajouter quelque chose, Christian Hellon? Je vous entends.
Tellement de choses, mais je vais faire succinct. Premièrement, la question centrale de la retraite est une question de l'existence entière. C'est comment gérer l'exercice responsable de sa propre liberté. Mais cette question est d'autant plus centrale au moment de la retraite qu'on a le temps et que les possibles à la fois s'élargissent, parce que le temps nous le permet, les moyens en général le permettent, etc. Et les possibles se rétrécissent aussi, parce que le temps presse. Comment vais-je habiter le temps qui me reste? On peut être saisi par le fait de prendre conscience de l'absurdité de l'existence. Parce qu'au fond, on a beau la remplir de sens, faire un travail sur soi, se développer, etc. À quoi bon tout ça? Avoir travaillé tant de temps? Pourquoi consommer quels objets? Pourquoi voyager? Enfin, voilà.
Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie aussi? C'est quand même, ça sonne fort, ça. Hein,
c'est ça l'authenticité dont tu parles, Jean-Luc. Je pensais, suis-je en phase avec moi-même? Quelque chose comme ça.
Oui, il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi l'échéance finale à laquelle personne n'échappe. Ce qui nous rapproche tous les êtres humains, c'est quand même que la vie a une fin. Et qu'arriver à l'âge de la retraite, ça se rapproche quand même sacrément. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait
tricher un peu,
se dire, oui, bon, la mort, oui, on verra bien plus tard. Enfin, vous connaissez un petit peu cette formule ou cette vision de l'esprit. La mort, c'est pour les autres, quoi, au fond. C'est pas pour nous. On a le temps, on y pensera après. Les compagnons de route disparaissent aussi.
Aussi ça, ouais.
Voilà, il y a cette dimension-là qui fait qu'on est rappelé, au réel. Au réel de la vie humaine, et donc du coup, ça pose aussi la question de la vie dans son ensemble. À quoi ça sert de vivre finalement si on est destiné à mourir? C'est une question à la fois hautement philosophique, mais quand on l'intériorise, elle est profondément humaine et profondément percutante pour tout un chacun. Enfin, moi, je cite toujours Bernanos et le dialogue des Carmélites, cette vieille nonne qui meurt en disant « J'ai passé ma vie à penser, à méditer sur la mort, et maintenant, au moment où je vais mourir, ça ne me sert plus à rien. »
Je ne sais pas comment on va finir. On va essayer de mettre un peu de sourire quand même dans notre dernière partie. Jean-Luc Bernot et Christian Hellon, Psychologie de la retraite. Votre livre est plein de raisons de sourire. On y revient. Il est paru aux éditions Dunod. On écoute Sophie Noir, We Just Might, et la suite d'Ecosystem, c'est juste après.
Ecosystem, une émission de Florence Farion. Si vous avez manqué le début, sur l'application Play RTS, c'est facile.
Well, we might all be gone from here. One second round the bend. Turn one to many corners. One fails to comprehend. We'll be right back.
to glow. Ooh. Well, we might all return here on board a dimensions we don't know.
C'est la dernière partie d'Écosystème aujourd'hui, c'est la retraite dont nous parlons. Émission très AVS, très votation, puisque nous votons ce week-end. Mais vous avez remarqué qu'on en est bien loin, on est bien loin des chiffres, on est bien loin des caisses de pension. On parle aujourd'hui de cette psychologie de la retraite. Comment s'y préparer au mieux et vivre au mieux cette grande page blanche qui n'est pas tout à fait blanche d'ailleurs, on va y revenir. Jean-Luc Bernot et Christian Hellon sont nos invités aux éditions d'Uno et paru donc ce Psychologie de la retraite. Vous êtes tous les deux psychologues, chercheurs autour de ces questions de l'âge et de la retraite avec cette somme. Quand je disais page blanche, en fait c'est pas tout à fait ça, on est d'accord. Hein. C'est pas si simple, on arrive quand même avec un sacré bagage. On est vierge de pas grand chose quand on arrive à la retraite.
Ah ben oui, on a capitalisé en général quelques décennies d'expérience, de confrontation au monde, de déception,
de je veux plus de ça, de j'ai encore envie de ça,
oui, de joie, de voilà. Alors généralement c'est le privilège de l'âge aussi, hein, c'est-à-dire qu'on se connaît quand même beaucoup mieux, on sait ce qui n'a pas fonctionné, là où sont nos zones d'appétence. Alors parfois, pour ceux et celles qui ont le plus de chance, il y a des passions aussi. Alors ça aide quand même beaucoup dans la vie, d'avoir des passions. Ça peut être l'engagement social, ça peut être une activité sportive, de loisirs, une façon de voyager, puisqu'on a plus de temps généralement cette période de vie. On a des amis de très longue date, et ça peut être très agréable d'avoir des vieux amis qu'on revoit, peut-être avec dans une autre configuration. On peut redéfinir aussi son rapport aux enfants, puisque les enjeux sont complètement différents, aux petits-enfants. Donc, il y a tout un espace nouveau qui s'ouvre pour les personnes en situation de retraite et qui sont, lorsqu'on arrive à bien les investir, des opportunités extraordinaires de développement qu'on n'a pas eu souvent parce que manque de temps. Et là, bah, c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour l'existence et ça peut être très stimulant.
Avec ces 4 C que j'ai relevés, qui n'est, c'est pas de vous, hein, je ne sais plus à qui vous l'avez emprunté, choisir, continuer, cesser, commencer. C'est un beau programme, ça, les 4C.
C'est peut-être une question forte du côté, plus forte du côté féminin que du côté masculin, mais il faudrait travailler sur le genre.
Oula, enfin,
Ouais.
C'est vrai.
Cliniquement, il y a quand même ce vécu de beaucoup de femmes de s'être un peu sacrifiées pour la carrière de l'homme, pour les études des enfants et leur éducation, pour les petits-enfants. Enfin, il y aurait quelque chose à travailler, retraité au masculin, retraité au féminin, sans tomber dans des généralités parce que d'autres variables et d'autres facteurs interfèrent. Sur les 4 C, je voudrais commenter un peu ce qu'on développe dans cet ouvrage, à savoir, est-ce qu'on sera plutôt hédoniste, c'est-à-dire dans la quête de plaisir, eudémoniste, c'est-à-dire dans la recherche du bonheur, le bonheur passant peut-être par le plaisir, mais ça n'est pas tout à fait la même chose, altruiste, hein, c'est-à-dire est-ce que je vais m'engager dans des activités au service ou au bénéfice d'autrui, ou alors introspective, c'est-à-dire me tourner vers la réflexion, la méditation sur soi, le développement personnel, comment je vais articuler ces quatre dimensions.
Et on n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre, on peut passer de l'un à l'autre.
Comment on les articule, je pense, ouais.
Oui.
Mais c'est vrai que le penchant de notre culture occidentale et de notre société de consommation capitaliste, c'est quand même d'aller vers l'hédonisme, de se faire plaisir, de voyager en saccageant la planète à coups d'empreintes carbone, etc.
Mais parce que ça, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure quand on parlait des représentations, on n'a pas encore dit, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de tension entre générations, c'est-à-dire que vous, les boomers, qui avez pollué, qui avez saccagé la planète,
ouais,
enfin, etc.
Ouais, ouais.
Il y a aussi cette tension-là, à l'heure de la retraite qui ressurgit. Est-ce qu'on profite vraiment, est-ce qu'on n'ose pas trop, puis est-ce qu'on peut aider les générations d'en dessous comme un peu pour s'excuser? Je sais pas, il me semble qu'il y a une espèce de big maelstrom comme ça.
Bah, il y a quelque chose de la dette générationnelle, et c'est Hans Jonas le premier qui a posé cela dans le principe responsabilité. Qu'est-ce que je suis responsable de ce que je lègue à mes enfants, quoi, quelque chose comme ça, ou à mes petits-enfants. Et effectivement, la question du legs qu'on aborde également dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'est-ce que je laisse en héritage, qu'est-ce que je permets à mes héritiers de transformer ou pas, qu'est-ce que je leur laisse comme tri à faire une fois que je serai plus là, comment je distribue mes biens, les symboles qui vont avec. C'est une grande question face à la finitude, sans se précipiter, mais qu'est-ce que je laisse, à qui je le distribue, et au fond, quelle sera la trace de mon passage sur Terre.
Si on en vient à la préparation à la retraite, puisqu'on a posé beaucoup de questions, mais en fait, finalement, celle de la préparation à la retraite de manière pratique, vous disiez, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de formule, la psychologie existentielle peut vous y aider, mais vous évoquez quand même 5 fois 1h30 des séances qui pourraient permettre de gratter un peu et de se poser quelques questions.
Je crois que notre volonté, c'est de ne pas proposer des nouvelles normes. Il n'y a pas un modèle unique, un prisme par lequel tout le monde devrait passer obligatoirement. Voilà, je pense que ce serait absolument contre-productif. Ce qui est important, c'est de communiquer, c'est qu'il y ait des communications de la part des entreprises, des pouvoirs publics, des acteurs sociaux, des associations, des relais d'opinion, d'ouvrir le dialogue sur cette question-là, qu'elle ne reste pas comme la poussière sous le tapis à végéter pendant des années. Ensuite, c'est un peu la responsabilité de chacun et de chacune de se dire, ben voilà, moi j'arrive, le paysage de la retraite va s'ouvrir, c'est une ouverture pour moi, la retraite, et ça pourrait être aussi un bon terme alternatif. Qu'est-ce qui serait bon pour moi, quoi, finalement? Est-ce que j'ai besoin d'entrer en dialogue avec mon conjoint, et comment, et par quel biais? Est-ce que j'ai besoin d'être suivi par un professionnel, parce que ça aide, on va gagner beaucoup de temps, on va s'économiser beaucoup de difficultés, et dans ce cas-là, pourquoi pas? Ou est-ce que j'ai besoin simplement d'investir des nouvelles passion pour trouver un sens à mon existence, m'engager, et ça se prépare un petit peu. Donc chacun, je pense, a la capacité, en tant qu'être humain, on a la capacité à trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre de la vie, ou à la plupart des problèmes rencontrés, et puis parfois on a besoin d'un coup de pouce. Bon, parce que ça suffit pas, on tourne en rond, on n'arrive pas finalement à envisager la période de la retraite de façon sereine, ou bien ça crée des émotions négatives trop fortes, donc là, l'accompagnement peut être vraiment intéressant. Ça va nous permettre d'éviter peut-être de faire des erreurs aussi, de mettre sur la table un certain nombre de sujets auxquels on avait peut-être pensé, mais sans aller trop loin, ou auxquels on n'avait pas pensé du tout, et qui vont remettre un petit peu les choses en ordre avec des priorités. Alors, en travaillant sur les valeurs, en travaillant sur les perspectives, en abordant toutes les questions qu'on a pu aborder. Hein, ça peut être la question du rapport à la famille, la reprise d'une activité professionnelle, du mode de vie. Enfin, tous ces sujets-là ne peuvent pas être abordés en une demi-heure, quoi. Oui. Ça demande plusieurs séances.
Alors, votre livre, là, je vous donnerai la parole, Christian Hellon, mais il y a les 7 questions que vous posez et qui, moi, m'ont paru alors tellement limpides. De quel statut ai-je besoin en vie pour me définir? Comment vivre avec mes revenus? Quel rôle clé vais-je me donner? Quelles seront mes relations sociales? Comment vais-je organiser mon espace de vie? Comment structurer mon emploi du temps en l'absence de travail? Où vais-je dorénavant puiser le sens que je donne à ma vie? Et si on répond à ces questions-là, à mon avis, on a déjà pas mal de clés. Hein.
Bah, c'est l'idée, effectivement. Je pense que ces questions ne sont pas limitatives, mais à peu près exhaustive tout de même, et oriente les différents dispositifs d'accompagnement ou de préparation à la retraite que nous décrivons dans l'ouvrage. Ce sont vraiment les questions concrètes auxquelles chacun doit trouver sa propre réponse, c'est-à-dire celle qui lui convient.
Oui, ou pour compléter, parfois ne vont pas donner lieu ou déboucher sur une réponse tangible, formalisée, mais le fait de se questionner déjà...
Met en mouvement.
Voilà, met en mouvement la personne, lui permet d'avoir une grille de lecture et d'être en confort finalement par rapport à des situations d'adversité qu'on va rencontrer pendant cette période ou d'ambiguïté, parce que voilà, la vie continue, elle n'est pas toujours facile, elle réserve son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Et donc voilà, cette grille de lecture, elle est vraiment, elle est une façon d'activer des ressources pour faire face et être armé face aux événements qui vont être rencontrés sur son chemin.
Je vous mets au défi d'une réponse courte parce qu'il nous reste extrêmement peu de temps, l'un et l'autre. Jean-Luc Bernaud, question personnelle, de votre côté, vous êtes du côté des réjouis ou des pas réjouis de la retraite ?
Ah ben moi, je suis extrêmement optimiste et positive dans ma façon de voir les choses de façon personnelle. Donc, j'envisage toujours l'avenir pour moi-même et pour les autres comme vecteur d'opportunités. Et donc, la question, c'est toujours comment activer les bonnes ressources pour faire face à chaque événement présent et puis garder une forme de générosité, d'envie de partage au quotidien. Voilà,
et je suis sûre que vous allez tricher parce que vous allez continuer à écrire et faire moult choses. Christian Hellon, je vous pose la même question.
Plutôt réjoui et confiant dans l'avenir et les virtualités de l'être humain dès lors qu'il s'empare de son destin, fût-il tragique.
Je vous remercie infiniment à tous les deux d'avoir d'abord dirigé cet ouvrage Psychologie de la retraite avec moult signatures, études. Enfin, c'est des choses qui vraiment peuvent vous enrichir et vous tenez vraiment au courant de par vos fonctions respectives de tout ce qui se passe du côté de notre boîte noire et des études diverses et variées autour de l'âge, autour de la psychologie. Jean-Luc Bernaud, Christian Hellon, vous étiez nos invités Psychologie de la retraite aux éditions du Nous. On retrouve l'émission sur le net. N'hésitez pas à la transmettre. Elle sera disponible juste après diffusion. Merci encore à tous les deux. Et belle suite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches, analyse ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging? Rappeler les années avec du bodybuilding. Mettre de l'antiride à la graisse porcine. Passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Je suis prêt à appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres. Pour devenir celui qui gambade dans l'herbe, je lève la main gauche et déclare avec ferveur être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Clu-Clux. Toi, viens à moi, tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant m'apostant comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps jeune, fun. Je brille comme un gun neuf. J'ai du sang neuf. Je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de banque en KL buff. Le tout si possible arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. La balle à vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, retour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire. Le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle, moi, en émoi, et
escalade dans la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme.
Ainsi se termine la dernière émission de l'année. On va se retrouver le samedi 4 janvier pour parler de la procrastination. Remettre à demain, voire à l'an prochain. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment se le permettre un 28 décembre. Allez, je vous souhaite de la terminer cette année 2024 en beauté, de bien commencer 25. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et vous souhaite tous mes vœux. À très vite. RTS Première, il est 14h.